c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute en écoute la télé, on va parler de la rentrée fiction d'M6. Florent Gillet, eh bien le nouveau directeur de la fiction, sera avec nous dans une poignée de secondes pour nous dévoiler toutes les nouveautés de cette rentrée. Et puis on va évoquer bien sûr vos séries quotidiennes avec Ingrid Chauvin qui est notre invitée exceptionnelle aujourd'hui pour Demain nous appartient, et Catherine David-Zenka, l'interprète d'Hortense dans Ici tout commence, qui va être également avec nous. On va parler également plateforme avec Slash.tv, la plateforme de France Télévisions qui vient de sortir la saison 2 de sa série Stalk avec Théo Fernandez et Carmen Kassovitz, puis notre coup de cœur ciné consacré au nouveau film de Philippe Le Guay, L'Homme de la Cave. En fin d'émission, nous recevons le réalisateur Philippe Le Guay ainsi que Sharif Andoura, un des acteurs du film. Vous l'avez compris, je pense qu'on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. Et tout de suite, un petit tour vers les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Et on commence par lundi dernier, justement, L'Amour est dans le Pré qui arrive en tête sur M6, à faire plaisir à Florent Gillet. 4 021 000 téléspectateurs et 20,3% de part de marché. L'Absente arrive deuxième sur France 2 avec 2 700 000. Et Une affaire française sur TF1 termine sur la troisième place seulement avec 2 674 000 téléspectateurs. Mardi, grande forme pour Alex Hugo également avec 4 599 000 téléspectateurs et Koh-Lanta qui continue de baisser légèrement à 4 129 000 téléspectateurs et 22,3% de part de marché. Beau score pour France 2 et Le Fabuleux Voyage à presque 3 millions. Et tout de suite, on reçoit donc Florent Gillet, le directeur de la fiction de M6 dans Chute, on écoute la télé.
L'invité d'honneur de la semaine.
Direction M6 avec la saison fiction d'M6 avec un remodelage complet des prime time avec des nouveautés, des événements qui vous attendent, des fictions sociétales. On va en parler tout de suite avec Florent Gillet qui est notre invité directeur de la fiction à M6. Bonjour Florent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. De nombreux événements, on le disait, puis surtout un axe fort qui est en train de prendre M6 vraiment vers la fiction événement sociétal avec des sujets d'actualité forts qui nous attendent pour les semaines à venir.
Oui, c'est vrai que la fiction M6, on a envie qu'elle soit aussi à l'image de la chaîne, c'est-à-dire une chaîne qui est dans la société, qui parle de la société, qui est dans la vie des gens. Et aujourd'hui, on présente deux unitaires avec des faits société forts. La première, ça a été J'irai au bout de mes rêves, le deuxième film qu'on fait avec Stéphanie Pilonka sur la thématique du handicap. Et la deuxième, c'est À la folie, qui donc traite de l'emprise d'un pervers narcissique sur sa victime. Voilà, avec une réalisation qui a été confiée à André Abescon et Eric Métayer qui ont vraiment apporté leur patte à ce très beau texte.
Le duo des chatouilles, voilà, qu'on aime beaucoup aussi. Andrea, effectivement, alors il y a d'autres événements qui vont arriver pour cette saison. Il y aura Pour te retrouver, film de Bruno Garcia qui va traiter de l'autisme aussi. Il y a Sauver Lisa, mini-série événement avec Victoria Abril. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être distillées tout au long de cette saison.
Tout à fait. Effectivement, Sauver Lisa, c'est une série qui a été adaptée d'un format japonais, ce qui est c'est a priori la première fois en télévision gratuite en France qu'on adapte un format asiatique. La série d'origine s'appelle Mother. Et nous, on l'a resserré, on a rajouté du thriller. C'est une série qui démarre sur un pitch qui est très simple. C'est que feriez-vous si vous étiez confronté à la maltraitance d'un enfant? Et donc, on va avoir Caroline Anglade qui va se retrouver dans ce dilemme. Elle est remplaçante dans des écoles primaires. Elle est là pour quelques semaines et elle crée un lien fort avec une petite fille de sa classe, mais elle comprend rapidement que cette fille est maltraitée. Et du coup, devant l'inaction des services sociaux, de l'école, elle prend une décision folle, c'est-à-dire d'enlever cette petite fille, de maquiller sa disparition et de l'emmener sur les routes avec elle pour la protéger. Ce chemin va les emmener toutes les deux jusqu'à la famille adoptive de notre héroïne, Caroline Anglade, puisqu'elle a elle-même été adoptée. C'est une histoire de maternité, puisqu'on va retrouver plusieurs portraits de mère incarnés par des femmes. Donc, on a Victoria Abril, Christiana Reali, Caroline Anglade et Déborah François. Donc, un très très beau casting féminin pour notre chaîne M6 qui l'est tout autant.
Alors, il faut dire que depuis quelques années, M6 était un petit peu absent au niveau de la fiction de prime time. Hein. Évidemment, pas serait-ce parce qu'on va parler de scènes de ménage, évidemment, et en famille et toutes les fictions voilà françaises aussi. Mais là, on a l'impression que c'est... On renoue un petit peu aussi avec la fiction événement de prime time qui était absente depuis quand même quelques années sur M6, avec une vraie case, avec une vraie récurrence pour cette saison.
Écoutez, on reste un challenger dans la fiction, faut pas se voiler la face. On a un volume qui est vraiment moindre en fiction de prime time que nos concurrents, parce que c'est vrai qu'on investit énormément sur la fiction d'access en comédie, mais c'est vrai qu'on essaye de tracer une ligne avec des sujets plus féminins, plus sociétaux, qui est plus lisible. Voilà, on a mis de côté des choses qu'on a pu faire par le passé, notamment la comédie de prime time en série, et on se concentre sur des choses qu'on pense très en adéquation avec la demande du public.
Est-ce qu'on aura quand même des fictions de prime time dérivées comme scène de ménage? Je crois qu'il y a des prime time dans famille qui sont en préparation aussi.
Alors oui, alors ça c'est des bonnes nouvelles parce que il y a eu la période du Covid qui a été complexe, mais le tournage de scène de ménage n'a pas été interrompu. Enfin, il a été de manière très courte. Par contre, les prime time de scène de ménage étaient plus compliqués à faire pendant toute la période du Covid. Et là, on peut reprendre et donc on a un nouveau prime time de scène de ménage qui rentre en tournage d'ici quelques jours et donc qui sera visible. À partir de la fin de l'année ou l'année prochaine. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et sur En Famille, on en a un en stock, mais maintenant, il faut trouver le bon moment pour le diffuser, c'est surtout un événement très fort, puisque c'est le mariage de Jean-Pierre et Marjorie.
Sur scène de ménage, nouveau couple, on peut en parler et mettre ce nouveau couple à l'honneur qui a débarqué depuis fin août sur nos écrans.
Oui, tout à fait. Alors ça, on est très fiers de ce nouveau couple. Effectivement, c'est un couple de trentenaires sans enfants. Ils ont vécu plusieurs années, ils sont montés à Paris. Elle bossait dans des restos, elle est chef, lui était pompier de Paris. Et en fait, ils ont l'opportunité de revenir vivre là où ils ont grandi tous les deux, parce que c'est des amis d'enfance à l'origine, au milieu de leur famille, parce que le père de notre héros, Jalil, laisse son restaurant. Et donc, en fait, Louise, la femme de Jalil, il voit l'opportunité d'ouvrir son restaurant, récupérer le restaurant du papa et ouvrir, complètement le rénover et ouvrir ce restaurant. Mais ça veut dire revenir dans le quartier où ils ont grandi. Donc, ce qui est à la fois un plaisir parce que se rapprocher des familles, des parents qui vieillissent un peu, etc. Mais c'est aussi les familles hyper présentes avec des cultures très fortes des deux côtés, les cousins, les frères et sœurs qui arrivent, etc. Et donc, ça va être un couple, il va se passer beaucoup de choses.
On va finir par les fictions en développement. Il y a des choses certainement qui sont déjà en préparation, que vous préparez, qui seront plutôt évidemment diffusées en fin de saison l'année prochaine ou peut-être à la rentrée 2022. Mais quels sont les gros événements? Vous pouvez déjà un petit peu nous annoncer qui sont en préparation, en développement.
Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vient de commencer un tournage il y a quelques jours d'une série de 6 fois 52 minutes qui s'appelle La Maison d'en face. On le qualifie de thriller sulfureux de voisinage avec un casting avec deux couples. D'un côté, on aura Julie Debona et Marc Ruchman qui vont arriver dans un quartier, une espèce de Wisteria Lane, comme ça, un très joli quartier avec des petites maisons toutes mignonnes. Et dans la maison d'en face vit un couple qui a une réputation assez sulfureuse et qui sera interprété par Thierry Neuvik et Katharina Murino. Voilà, la série est réalisée par Lionel Bahut et écrite également par lui. Voilà, c'est un projet auquel on tient beaucoup. Et ensuite, on est en casting, en fin de casting pour une mini-série de 4 épisodes qui s'appelle L'homme de nos vies et qui devrait rentrer en tournage prochainement.
Voilà. Bon, de beaux événements en tout cas sur M6. On continue Scène de ménage tous les soirs évidemment à 20h25 qui cartonne, puisque voilà, on le dit jamais assez, mais Scène de ménage, c'est la fiction française quotidienne numéro 1 tous les soirs qui rassemble le plus de téléspectateurs, et ça c'est une fierté.
Ah oui, exactement, c'est vrai que Scène de ménage continue, on est à la 13e saison et effectivement encore un nouveau couple, on a toujours nos historiques, on fait toujours une saison exceptionnelle, ça ne se dément pas, c'est un travail considérable considérable de réinvention chaque saison, hein, parce que le succès, ça s'entretient. Donc c'est des nouveaux couples, mais c'est aussi des nouvelles pistes dans chaque couple. Il faut pas être feuilletonnant, mais il faut quand même arriver à trouver des nouvelles intrigues, et puis des sketchs. Et il y a plus de 25 auteurs qui travaillent sur Scène de Ménage, et c'est ça qui fait cette émulation et cette énorme masse de textes où finalement on n'en garde que les meilleurs d'entre les meilleurs. Et c'est ça qui fait que le niveau de comédie est maintenu de jour en jour.
Merci beaucoup, Florent, d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
Et puis on se dit à bientôt, et puis on continue évidemment à soutenir les fictions d'M6. À bientôt, merci.
Merci, au revoir.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on va parler ensemble bien de la saison 2 de Stalk qui vient de faire son apparition sur la plateforme Slash.tv avec bien celle que l'on va recevoir dans un instant, Carmen Kassovitz. Mais pour l'instant, eh bien, c'est Théo Fernandez qui nous rejoint et qui est avec nous. Bonjour mon cher Théo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va parler de luxe. Évidemment, et quand le stalker se fait stalker, c'est un peu le résumé de cette deuxième saison. Mais déjà, est-ce que tu pensais, toi, retrouver aussi vite luxe pour une deuxième saison? C'est toujours un cadeau, ça.
Bah ouais, carrément. Moi, je pensais pas, parce que déjà, j'étais en train de subir le contre-coup de la 1. Hein. C'est des saisons qui se tournent très rapidement et qui demandent beaucoup d'énergie. Donc, je me remettais déjà de la 1. Quand ils ont annoncé des idées pour la 2, j'étais très content. Mais je pensais pas être aussi content qu'en la faisant, parce qu'en la faisant, je découvre que il a fait évoluer le personnage en même temps que moi, c'est-à-dire qu'il prend en maturité, etc. Donc c'est une saison 2 qui a du sens.
Et Carmen Kassovitz qui vient de nous rejoindre, le rôle d'Alma. Bonjour Carmen.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous également. Alors on parlait voilà un peu de luxe et du bonheur que c'est à retrouver, mais Alma aussi était évidemment dans la saison 1. Un retour d'une saison 2, même question que j'ai envie de te poser. Ça fait toujours plaisir de retrouver un personnage pour une deuxième saison.
Bah oui, on s'attache. Enfin, perso, je me suis vraiment attachée à Alma. J'ai été hyper touchée, hyper contente et hyper heureuse de pouvoir continuer de vivre avec elle pendant un petit bout de temps. Voilà.
Alors Théo, c'est un rôle qui demande beaucoup d'énergie pour le coup, et je sais que déjà le tournage de la saison 1 avait été quand même relativement éprouvant pour toi.
Bah en fait, je découvrais la, comme dirait Simon, la grammaire stalk. C'est-à-dire que c'est très pointilleux, c'est très précis, c'est très peu de temps pour tourner, avec aussi toujours une conscience de où est placée la caméra, une conscience du cadre en tant qu'acteur. Là où sur certains autres projets, c'est plutôt la caméra qui va s'adapter à l'improvisation et au jeu de l'acteur. Là, c'est vraiment un commun accord en fait. C'est-à-dire que à la fois, bon, il s'adapte et en même temps, moi aussi, je dois m'adapter pour pas trop sortir du cadre. C'est des cadres qui sont très rapprochés, très précis. Donc oui, je découvrais tout ça, c'était extrêmement éprouvant techniquement, ça demandait une concentration intense. Et en fait sur la saison 2, du coup, il y avait l'avantage de pas être en terre inconnue, mais il y avait aussi le désavantage que tout le monde était au courant qu'on était en terrain connu, donc ils se sont dit on va peut-être se permettre de rajouter des scènes, de faire encore plus dur qu'avant vu qu'ils connaissent maintenant. Donc au final ça a été en même temps plus simple et en même temps tout aussi compliqué quoi.
Sur Slash.tv, c'est depuis vendredi la saison 2, évidemment la saison 1 est toujours disponible aussi, vous pouvez bien évidemment la voir. Carmen, est-ce qu'il y a des scènes qui ont été particulièrement difficiles pour toi pour le coup à tourner?
Dans la saison 2, oui. Les saisons 2, oui, j'ai des scènes d'émotions fortes. Il y a une scène avec mon père, on a tourné dans la neige. Donc c'était très éprouvant, c'était très fatigant. Et
voilà. Avec une Tesla. C'est ça, hein, c'est ça qu'on a parlé avec Simon, tu vois, voilà.
Avec la fameuse Tesla. Et donc ça a été une scène un peu compliquée, mais c'était un défi de pouvoir. Puis tu tombes dans un environnement qui est quand même assez spécial. T'as de la poudreuse jusque là. Il fait moins 25 degrés, mais c'était cool. C'était vraiment une des scènes les plus compliquées là sur cette saison-là que j'ai eu à faire.
Quand on tourne une série comme Stalk, moi je me pose toujours la question, est-ce qu'on devient un peu parano?
Moi je l'étais déjà avant.
Donc ça s'est pas arrangé.
Non, ça s'est pas arrangé. J'étais déjà avant, j'avais toujours mon sticker sur mon ordi évidemment. Après oui, on se rend compte à quel point c'est facile en fait de pouvoir être stalké. Donc on devient un petit peu parano, ouais. Mais pas il faut pas non plus vivre dans la peur comme dit Théo, mais ouais c'est de toute façon on est toujours stalké, toujours observé que ce soit enfin partout sur les réseaux sociaux. Tout le temps.
Oui, parce qu'il faut savoir quand même que tout est validé pour vraiment vérifier que c'est possible, en tout cas, que c'est vrai, que ça peut être vrai.
Oui, voilà, c'est ça. C'est des vrais hackers qui valide.
Théo, est-ce que toi, justement, t'es parano, ça t'a rendu parano, ou alors, on en discutait un petit peu, là, il y a quelques minutes, juste avant de prendre antenne avec toi, tu disais que toi, ça t'avait plutôt soigné.
Ouais, bah, ça m'a fait l'effet inverse, parce qu'au final, bah, comme un peu n'importe quel truc qui peut être poussé à l'extrême, une fois qu'on voit, en fait, le paroxysme du truc, on voit un peu la logique et on voit la finalité. Donc, moi, je me dis qu'effectivement, si je suis dans la logique de faire attention à chaque fois que je peux être stalké, ou qu'il y ait des choses qui puissent être mal interprétées ou des trucs qui puissent fuiter ou quoi que ce soit, bah en fait c'est impossible de vivre tranquillement. Donc je préfère adopter l'autre logique, à savoir je préfère ne pas y prêter attention du tout, ne pas être parano du tout, et si ça tombe, j'aurai tout le loisir d'avoir peur une fois que ce sera tombé. Et comme on dit, s'inquiéter c'est souffrir deux fois, du coup je préfère souffrir une fois.
C'est pas mal dit, c'est très très bien dit. Bon, je suppose que après un tournage comme la saison 2 qui vient tout juste de sortir sur slash.tv, est-ce que vous avez envie d'une saison 3? Est-ce que la fin de saison 2, pour ne pas spoiler non plus, mais est-ce qu'elle est ouverte ou est-ce que c'est plutôt bouclé, vous qui l'avez tournée, Carmen?
C'est un peu la fin de la saison 1, évidemment, c'était très très ouvert.
Là oui.
Oui, là c'était évident. Par contre la saison 2, quand vous regarderez la saison 2, vous allez comprendre, c'est un peu plus technique, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a toujours une possibilité. C'est du cinéma, enfin c'est de la fiction, c'est donc il y a toujours une possibilité après, à voir, ça dépend de plein de facteurs.
Théo, t'as envie de retrouver Lux alors ou pas, ou ça risque d'être compliqué?
Eh ben,
vous
m'aurez posé cette question il y a un an, je vous aurais dit non, jamais, plus jamais. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est tellement éprouvant, c'est tellement intense qu'en fait, quand on est dedans, on se dit mais là, je veux juste une pause, en fait, je veux juste reprendre plus tard. D'ailleurs, on a eu la petite pause du Covid qui a fait du bien. Mais en fait, comme tous les trucs vraiment très intenses, une fois qu'on n'y est plus, on se dit « Ah, quand même, ouais, c'était dur, mais en même temps, bah, t'as un objectif, la vie a du sens, parce que le sens, c'est le projet. T'as un projet en commun, tu donnes tout pour ça, donc quelque part, c'est quand même très agréable, quoi. Donc, ouais, moi, j'ai très envie d'y retourner, mais en vrai, je sais très bien que si on y retourne, ça va être encore un défi, quoi.
Bon, est-ce qu'il y a des projets pour vous, pour la suite? Est-ce que d'ici la fin de l'année, début 2022, est-ce que tu as tourné dans d'autres choses, Carmen, dans lesquelles on va te voir? Ou c'est cinéma, théâtre ou télévision?
Alors, j'ai tourné dans 4 longs métrages qui sont pas encore sortis, qui vont sortir 2022, peut-être début 2023. Donc, 4 longs dans lesquels vous pourrez me voir de cinéma. Je suis assez contente.
Génial. Mais alors, toi, Théo, je crois que c'est pas. Là, on va être servi, hein. Si on a du Théo Fernandez, là.
Ah, bah non, j'aurais aimé que vous posiez la question en premier, parce que passer après 4 longs métrages. Moi, j'ai fait une série sur Netflix qui s'appelle Les 7 vies de Léa, dans laquelle la sœur de Carmen joue, et elle tient le premier rôle. Et moi, je joue un batteur de groupe grunge.
Et ça sera sur Netflix, ça?
Oui.
Pour quand? T'as déjà une date, une idée? Début 2022 plutôt, ou d'ici fin de l'année?
2022.
Très bien, à suivre. Alors évidemment, aussi, enfin, ah, en décembre, ah, ah, les Tuches vont fêter Noël.
Ah, oui.
Ah oui. Donc on te retrouve évidemment.
Oui, un peu. Oui.
Bon, en tout cas, Stalk, c'est sur slash.tv, sur la plateforme de France Télévisions. N'hésitez pas à aller découvrir cette série qui va vous plonger dans le monde du stalk, voilà, c'est le cas de le dire. Et puis on vous souhaite tout plein de belles choses. On va terminer par la bande-annonce. Merci Théo, merci Carmen d'avoir merci été toi avec nous.
Merci à vous, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Vous êtes tous des stalkers. Vous êtes tous des voyeurs. C'est plus fort que vous. Quand vous stalkez, vous vous sentez surpuissant. Mais juste une chose que vous oubliez. Vous aussi, vous êtes stalkés.
1. Trouver la faille. 2. Repérer le vecteur initial.
Dans la mine du temps.
Comment tu t'appelles?
Charlie. On joue pas dans la même cour, toi et moi.
3. Remonter jusqu'au hacker.
Je soupçonne une des notes, maman. T'es un malade, toi, en fait.
T'es sérieux, là?
Mais non, Alma.
Coup de cœur télé pour Ici tout commence, votre série que vous suivez du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Quelle chance aujourd'hui d'avoir le personnage d'Hortense. Alors, moi, c'est une de mes préférées, je dois vous l'avouer. Donc, c'est un grand plaisir de t'avoir avec moi, Catherine David-Zenka.
Eh bien, plaisir partagé, je suis très contente.
Merci d'être là. Catherine, le personnage d'Hortense est vraiment un personnage solaire, dynamique, sans filtre. C'est vraiment le personnage que tout le monde peut aimer.
C'est vrai que, elle est très spontanée, très lumineuse, mais elle a son petit caractère aussi quand il faut.
Exactement. Quand on t'a lu un peu la bible du personnage, tu t'es dit quoi au départ?
Alors, Pour vous dire la vérité, la bible du personnage, c'était jeune fille solaire, a fait médecine, libérée et spontanée, voilà, parle de sexe ouvertement.
Bah, c'est avec ça. C'est tout, c'est sans filtre. Hein. Elle dit ce qu'elle pense.
Sans filtre. Donc voilà, il y avait c'est à peu près tout ce que j'avais comme description. Et quand je me suis retrouvée en face de ça, je me suis dit, bon, comment je peux m'amuser? Qu'est-ce que je peux créer? Est-ce que je pourrais pas carrément composer un perso? Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, j'étais un peu stressée parce que je l'ai présenté en fait, ce personnage, vraiment pleinement, avec la voix, l'éthique, tout ce qui s'ensuit, le premier jour du tournage. Donc il y avait l'équipe, les caméras, le château, enfin tout quoi autour. Et j'étais là genre, ok d'accord, bon, bah, c'est le moment ou jamais, soit ça passe, soit ça casse. Et j'étais à deux doigts de pas oser le faire, et en fait j'ai fait si. Et voilà, donc c'est resté, c'est passé, et je suis très contente.
Et quand t'as proposé ça, ils étaient pas au courant? Quand ils savaient pas que t'allais un peu modifier ta voix, que t'allais amener tout ça, ton perso?
Alors je l'avais fait un petit peu en entraînement avec notre coach, donc je pense qu'il en avait parlé un peu justement au réalisateur et à la prod, qui était pas du tout contre l'idée, au contraire. Par contre, à ce point, non, ils n'étaient pas au courant. C'était vraiment sur le moment, quoi.
C'est une véritable histoire d'amitié qui est en train de se nouer entre vous tous aussi sur le tournage, parce qu'au-delà de ça, vous passez énormément de temps ensemble dans ce château de Calvière qui est absolument magnifique. Nous, à l'écran, c'est assez incroyable. Mais vous, quand vous l'avez découvert, ça a dû être joli aussi.
C'était incroyable. C'est un décor avec une précision impressionnante, dans le sens où quand on ouvre un tiroir, il y a les documents de l'institut dedans. On a des emplois du temps dans nos chambres. Enfin, il y a un réalisme à couper le souffle qui, je vous avoue, est très très utile quand il faut jouer des choses rapidement dans l'émotion et tout. En fait, le contexte aide beaucoup quand même.
Elle amène souvent des côtés comédie, des respirations hors temps, c'est ça qui fait du bien, même si elle a vécu voilà, des choses un petit peu plus dramatiques dans les mois qui sont passés. Mais elle amène toujours ce côté solaire, elle perd jamais sa joie de vivre.
Exactement, c'est-à-dire que bah, y a une réplique en fait qui a un peu permis au personnage de continuer d'être sur cette couleur-là, même si elle a beaucoup mûri, évolué, on le voit un peu. C'est quand mon père, à la fin de l'Arche Hugues, justement, me dit il faudrait pas que tout ce qui s'est passé change qui tu es. Et en fait, cette phrase, pour moi, en tant que comédienne, elle voulait dire, les auteurs te disent, enfin, il faut qu'elle soit forte, et il faut que, justement, montrer une forme de capacité à passer au-dessus des événements les plus dramatiques. Et du coup, ça a renforcé beaucoup le personnage, et voilà.
Parce que la relation est difficile avec son père à Hortense.
Oui, tout à fait. Bon, il a fini justement par accepter ses rêves, et maintenant, à ce qu'il paraît, tout va bien. Maintenant, on va voir par la suite ce qui va se passer.
C'est maintenant qu'ici tout commence.
Exactement.
Alors, il y a aussi cette amitié très forte avec le personnage d'Eliott. C'est vraiment, on va dire, le binôme. C'est un binôme indéfectible dans la série.
Oui, et on a...
J'ai l'impression dans la vraie vie aussi.
Ouais, en fait, on a créé un vrai lien qui, je pense, va durer au long des années, parce que, en fait, on a démarré cette aventure vraiment tous les deux, dans le sens où on a passé le casting ensemble. On est le seul binôme à avoir été pris ensemble. On ne le savait pas forcément. Quand on s'est revus sur la place, on a fait mais non, on était trop heureux, parce qu'on savait pas qui allait être Eliott et Hortense. Et en plus, à la base, il n'y avait pas toute cette suite. Donc, on savait pas pour Greg, on savait pas tout ça, ça existait pas encore. Et donc c'était présenté comme une forme de couple avant-gardiste. Donc c'était vraiment, enfin, nos premières scènes, notre première journée de tournage, il montrait son cul. Ensuite c'était la scène, on tournait la scène où je lui léchais le blanc de l'œil, puis la scène où je lui suçais le doigt, et on terminait par la scène où on s'embrassait dans le parc. Donc en fait, ça lançait vraiment le truc. Enfin voilà, donc on a créé une amitié. Je pense que c'est voilà, immuable, impossible à bouger, quoi.
Comment vous avez vécu ce succès immédiat? Le succès est totalement hallucinant. Et dès le départ, il a même dépassé les parts de marché de Demain nous appartient, qui est diffusé juste après vous. Vous tous, vous l'avez réalisé, ça ou pas?
Alors, je ne peux pas parler pour les autres, parce que sincèrement, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, j'ai pas trop pris conscience de ça tout de suite. C'est comme, justement, on m'a demandé si je m'attendais à ce que ça arrive, etc. Je vous avoue que j'étais tellement concentrée sur mon rôle, sur ma partition, sur ce que j'avais à faire, sur ce que j'avais à composer, à créer, que j'étais un peu vraiment dans mon travail de jeu. Voilà, j'étais un peu... Et c'est vrai que c'est comme si j'avais la tête baissée, et que quand j'ai relevé le truc, je fais « Ah d'accord, ah ça marche, ah ok, bon bah oui, bonjour, bah oui, bonjour Catherine, enchantée. » Enfin voilà, ça s'est passé un peu comme ça, quoi. Donc voilà,
Ouais, c'était quand même, c'est quand même une belle surprise. Puis la série a pris tout de suite aussi. Là, vous êtes venu au Festival de la fiction télé de La Rochelle. Il y a quelques jours, vous avez pu mesurer votre popularité totalement hallucinante. Tout le monde vous court après dans la rue. C'est dingue.
Oui, c'est assez dingue. J'avoue que on m'avait encore jamais couru comme ça à ce point dans la rue après. Mais c'est, enfin, nous, ça nous touche en fait quelque part parce que c'est pour eux qu'on fait ça. C'est pour eux que je joue. C'est pas pour moi ou pour voilà quoi. C'est pour les
pour le public.
C'est pour oui, voilà. C'est vraiment pour le public. Et donc quand j'ai un retour aussi puissant du public, mais ça peut que me rendre heureuse en fait parce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien.
À nous embarquer, Hortense, dans les prochains épisodes.
Alors, le souci, c'est que moi-même, je ne sais pas trop. Dans le sens où, nous, on n'a pas les épisodes non plus hyper longtemps en avance.
Parce qu'est tourné, on va dire, ce que tu viens de tourner. Parce que t'as tourné il y a un mois et demi.
Il se passe pas énormément de choses, beaucoup de comédies.
Mais ça fait du bien.
Voilà, beaucoup de respiration comique, beaucoup de voilà, de moi je me suis éclatée un peu à comme j'avais moins de dialogue, moins de choses précises. En fait, c'est un autre exercice dans le sens où du coup quand j'arrive sur le plateau, je me dis OK, j'ai deux phrases à dire, mais ces deux phrases, il va falloir qu'elles soient habillées de regards, de trucs. Donc je cherche. C'est-à-dire que j'arrive sur le plateau et je cherche un truc à faire, un truc à mettre sur ma tête. Enfin voilà, j'essaie de faire sortir la Hortense en moi et trouver quelque chose d'un peu absurde, mais qui reste juste, justement, de jouer un peu sur ce fil comique, sans brouiller la scène et tout, mais juste pour pouvoir avoir le fameux petit plan où on la voit dans le fond faire un truc et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout elle encore, quoi. Mais pourquoi, quoi.
Voilà. C'est pour ça qu'on l'aime, je te le dis.
Merci.
Merci beaucoup Catherine d'avoir été avec nous. En tout cas, on se revoit très vite. Ici tout commence, c'est à 18h30 du lundi au vendredi. Puis on espère aller vous voir très vite au château.
Eh bien, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Et on va parler de Demain nous appartient avec notre invité, le pilier de la série. Qu'on ce qu'on l'aime, Ingrid Chauvin qui est avec nous. Je sais que vous l'aimez aussi beaucoup. Merci d'être avec nous Ingrid.
Merci à vous, ça me fait plaisir.
Renouveau total, mais voilà, évidemment les piliers sont toujours là. Et plus fort que jamais, évidemment, après avoir vécu des choses difficiles, comme cette prise d'otage, qui a ressoudé un peu les liens aussi avec Alex dans la série. Un petit coup de reviens-y, on va en reparler, on va voir si ça se poursuit ou pas, tout ça. Mais surtout, moi, j'aimerais savoir déjà comment tu vis, Ingrid, un peu tous ces bouleversements à l'image de casting, tout ce qui a pu se passer ces derniers mois, qui sont pour le bien, bien sûr, aussi de la série. Mais toi, en tant que comédienne, comment tu vis ça?
Comment je vis ça? Alors déjà, c'est vrai qu'au bout de 4 ans, il est important de pas s'endormir, de proposer des nouvelles choses, hein, donc et puis d'être toujours, enfin il faut être prêt à cette attente du public qui est phénoménale, hein, quand même. Il faut pas l'oublier. Voilà. Après c'est vrai que c'est un peu perturbant entre guillemets parce que tout vient d'un coup et ça fait un gros chamboulement. Et en même temps c'est très motivant parce que voilà, on n'est pas dans une monotonie du coup et il se passe plein de choses, il y a plein de nouveautés, on sort de sa zone de confort, on est heureux d'accueillir de nouvelles personnalités, personnages, décors. Donc voilà, c'est intéressant finalement.
C'est un vrai challenge pour le coup, un redémarrage complet, ce que je disais. Même si on n'a jamais regardé Demain nous appartient, on peut très bien s'y mettre dès maintenant. C'est presque une nouvelle série qui démarre, de nouvelles histoires, des nouvelles familles, une nouvelle image qui ressemble de plus en plus à une image de prime time, on vraiment s'y croit. Et c'est vrai que voilà, après 1000 épisodes, c'est incroyable de fêter un anniversaire pareil.
Bah c'est un beau cadeau. En tout cas, c'est vrai qu'on s'imaginait pas arriver jusque là. Je pense que secrètement, on l'espérait tous. On est très heureux d'y être arrivé. Et puis, je sais pas, moi, j'ai envie de vous donner rendez-vous pour les 2000. Enfin, voilà, je sais pas. Je m'y sens bien. Je suis heureuse dans ce personnage. Je suis heureuse à 7. On a créé une très jolie famille de cœur, de fiction. Et si demain la série devait s'arrêter, je resterai.
Je dois t'avouer que franchement, s'il devait arriver à quelqu'un tout ce qui a pu arriver à Chloé en 4 ans, évidemment, faut surprendre sans arrêt le spectateur. Mais franchement, on se dit, c'est un nid à histoire, c'est un nid à emmerde, comme on pourrait dire quand même. Hein. C'est vraiment pas de chance. Mais à la fois, il faut ça pour surprendre aussi le spectateur sans arrêt. Mais il en est tellement arrivé en 4 ans. Toi, t'arrives à te souvenir un peu de tout ce qui arrive au personnage quand même?
Oui, alors des fois, effectivement, je me refais des retours en arrière. Je me dis, mais c'est pas possible, mais qui pourrait survivre à tout ça? Et puis, en même temps, tu te dis, mais dis donc, il fait pas bon vivre à 7 finalement. On est là en train de vendre du rêve, mais venez pas les gars, c'est super dangereux. Non, mais c'est génial. C'est ce qui fait que... c'est ce qui fait le succès d'un projet quotidien comme celui-là, en fait. Voilà, des choses tellement énormes, incroyable tous les jours, et c'est ce qui fait qu'on s'ennuie pas vraiment.
Ouais, Ouais, c'est vrai. On a vraiment l'impression que vous vous ennuyez pas et que vous prenez toujours autant de plaisir, tous avec ces belles intrigues. On a des beaux décors et une série qui s'est vraiment installée dans le cœur des spectateurs de façon hyper durable. Et c'est vrai que le public ne défaillit pas. Tu as été au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle là, il y a quelques jours. C'est incroyable la ferveur du public pour la série. Hein.
Ouais, c'est très touchant. Alors moi, c'est vrai que j'ai la chance inouïe de vivre ça depuis de nombreuses années. Hein. Mais alors là, pour le coup, le fait d'être dans une quotidienne et de s'inviter chez les gens tous les soirs dans leur salon, il y a un impact encore différent qui est là, qui existe et dont on s'en rencontre tous les jours.
Nouvelle famille avec Charles, que tu formes avec Charles, pour le coup Xavier Meffre évidemment, Camille, Maude, ils sont vraiment adorables, mais il y a le petit grain de sable qui vient se glisser quand même en personnage de Raphaël, Jennifer Lurie qui fait son arrivée, l'ex-femme, un peu on va dire encombrante, c'est le mot qui pourrait y aller ou pas?
Très à l'aise avec elle-même, j'ai envie de dire. c'est vrai que surprenante dans le sens où je la trouve, Chloé la trouve très tactile avec son ex-mari, très à l'aise, c'est ça. Elle arrive chez moi, elle débarque comme ça, comme si elle était venue depuis, comme si elle était là depuis 6 mois en fait. voilà, mais c'est super intéressant.
Moi, ce que je trouve joli aussi, c'est ce rapport mère-fille avec Alice Varela que vous avez instauré. Ça transpire à l'image vraiment qu'il y a une profonde sincérité entre vous deux.
Bah, la sincérité, elle est tellement présente qu'elle m'a souhaité bonne fête pour la fête des mamans. Enfin voilà, c'est super mignon, c'est touchant. Et déjà, je trouve que c'est une excellente comédienne. Elle est très jolie. Et oui, on a un joli lien. Après, on s'entend tous très bien, hein. On se le dit quand même depuis 4 ans, à chaque fois on nous dit oh là là c'est trop facile, mais bon ça se confirme. Hein.
Ceux avec qui tu joues le plus souvent, peut-être que voilà, c'est plus facile automatiquement.
Mais évidemment, c'est vrai que quand on se voit quasiment tous les jours, quand on vit des choses, encore une fois, alors le talent il vient quand même des producteurs de la chaîne, de pouvoir réunir des personnalités qui matchent bien entre elles, ça c'est quand même absolument incroyable de leur part. Et puis effectivement c'est le cas, voilà, moi j'ai beaucoup d'affection pour elles, on est une jolie famille, vraiment.
Ouais, c'est une jolie famille, et puis là, on traite le thème de la famille recomposée, évidemment, aussi. Ce petit coup de reviens-y, alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a senti qu'il y avait une petite flamme qui était en train de se rallumer d'un coup, juste après cette prise d'otage qui a malmené aussi bien, évidemment, les comédiens que nous, spectateurs. Là, je crois que, franchement, le suspense était insoutenable pendant toute cette semaine où on a cru que vous alliez tous y passer. Hein.
Ah oui, mais nous aussi, on a eu peur, hein, je vous avoue. Mais en même temps, moi, j'ai bien aimé cette arche parce que, voilà, elle est exceptionnel et on a vécu 15 jours de tournage intense avec des plages horaires vraiment grandes, une ambiance particulière, une lumière, une mise en scène et puis oui effectivement ce fameux baiser à la fin avec Alex, je pense que c'est le baiser de la peur, le baiser de la peur de se perdre et puis c'est aussi s'apercevoir que on se connaît depuis 20 ans, qu'on a des enfants en commun et que d'une façon ou d'une autre on reste liés.
Je dirais que c'est le baiser de l'apaisement, moi. Après avoir été à couteau tiré pendant plusieurs mois, ce couple, enfin ça pèse.
Alors enfin ça pèse, après pour combien de temps on le sait jamais, mais mais en tout cas voilà, effectivement il y a des sentiments, il y a aussi la raison qui est là, il y a aussi ce couple avec Xavier qui existe, les enfants qui sont à la maison, enfin on est dans une problématique qui n'est pas simple et je pense que la pauvre Chloé, enfin j'aimerais pas être à sa place. Et en même temps c'est intéressant. On est encore sur un couple qui aime s'aimer, se déchirer et se retrouver surtout.
Ça a été dur de voir Clément partir sur notre série, même s'il revient faire quelques petits allers-retours.
Ah bah oui,
nous, il nous manque pas évidemment, on le voit tout à chaque fois avant vous, mais oui. Mais j'imagine que toi, il a dû te manquer un peu sur le tournage quand même.
Vous avez cet avantage-là, effectivement, de pas être dans cette frustration. Nous, effectivement, il nous manque. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis très fière de lui, de son parcours, de ce qu'il est, de qui il est humainement. Donc voilà, on a la chance de se voir un petit peu en dehors, de prendre des nouvelles. Mais c'était chouette de le voir à la fin de cette prise d'otage. C'était voilà, à chaque fois qu'on a un petit clin d'œil, à chaque fois qu'on a la possibilité de se revoir, on en profite un maximum. Et
peut-être que Chloé ira faire un petit aller-retour à Calvière dans les mois qui viennent, on ne sait pas.
Et mais pourquoi pas, ça a été le cas l'année dernière au moment de Noël et oui, pourquoi pas, il y a toujours forcément des événements dans la vie de cette famille qui fait qu'il y a quand même des petites retrouvailles même si elles sont infimes.
Moi j'aimerais donner une idée aux producteurs. Ça serait bien de souffler l'idée. C'est qu'il y a un grand prime time événement qui mélangerait des personnages d'ici tout commence et demain nous appartient dans une grande intrigue de soirée de prime time événement. Ça serait génial, ça.
Ah, pourquoi
vous pourriez vous retrouver.
Ce serait intéressant. Alors après, je sais pas quel serait l'impact pour le public, mais moi j'aime bien l'idée des crossovers comme ça avec les séries. C'est chouette de mélanger et de réunir les héros.
Ça crée toujours une émotion particulière pour nous spectateurs. On la ressent toujours, justement, on se dit ah ouais, on n'oublie pas qu'il était dans l'autre avant, et ça crée toujours quelque chose de particulier pour nous, en tout cas en tant que spectateurs.
Ah, c'est génial.
Est-ce que ça te laisse le temps pour faire d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver là bientôt, Ingrid?
Alors j'ai eu la chance de participer à un projet pour Canal+ avec Alex Lutz dans une parodie de La Vengeance aux deux visages qui s'intitule La Vengeance au triple galop.
C'est hilarant.
Hilarant, mais moi j'adore. Enfin voilà, ça a été une infime participation de ma part, mais pour un très très grand et beau projet avec de très belle rencontre. J'ai créé une gamme de cosmétiques pour bébés. En tout cas, j'ai créé la senteur d'une gamme de cosmétiques pour enfants, pour bébés et enfants, qui est un projet associatif dont tous les profits iront à une association pour enfants qui est l'association Arc-en-Ciel. Enfin voilà, je fais des petites choses quand même à côté. Évidemment, j'ai pas beaucoup le temps de faire davantage, mais
c'est pas toujours facile. Ça laisse pas beaucoup de temps une quotidienne. Hein, on le sait. En tout cas, c'est pour nous offrir que du bon, parce que nous, ben on est là tous les soirs, 19h10 du lundi au vendredi. Ingrid, merci d'avoir été avec nous, en tout cas encore une fois. Et puis on te dit à très bientôt.
Merci infiniment. Je vous embrasse.
Et on va se retrouver dans un instant dans Chute, on écoute la télé pour parler du film L'homme de la cave. Philippe Leguet et Sharif Andoura seront nos invités. Alors surtout ne bougez pas. À tout de suite.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on démarre tout de suite notre coup de cœur ciné cette semaine consacré à L'homme de la cave. On va recevoir dans un instant le comédien Sharif Andoura qui va nous en parler, mais d'abord le réalisateur. On va planter le décor un peu avec Philippe Leguet qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être là. L'homme de la cave, c'est l'histoire d'un négationniste qui achète une cave à l'insu évidemment de Jérémy Régnier, le propriétaire. Et évidemment, quand tout va se découvrir, eh bien, il va être très très difficile de le déloger, mais il y a toute une histoire justement sur le complot. Les négationnistes, on apprend plein de choses dans votre film, Philippe.
Oui, c'est un thème très rarement, voire quasiment jamais abordé au cinéma. D'ordinaire, on montre, disons, des néo-nazis, des skinheads. Et là, au fond, mon personnage, l'homme de la cave, c'est un prof d'histoire qui a été radié pour négationnisme, pour propos négationnistes. Et il a un désir de respectabilité. Et en même temps, c'est un type aux abois, c'est un type qui n'a nulle part où aller. Visiblement, on lui avait promis un appartement et un studio. Voilà. Et au fond, son dernier recours, c'est d'acheter une cave et de s'y installer. C'est dire son dénuement, sa solitude. Et évidemment, alors, j'ai l'air d'en parler presque avec compassion, mais il y a un mystère de ce personnage. Et le fait qu'il s'installe dans la cave d'un immeuble va créer une sorte d'onde de choc. On suit un peu les conséquences de sa présence sur une famille, le couple qui a vendu cette cave, leur fille ado de 16 ans, et de manière plus générale, en fait, de toute la communauté de l'immeuble.
Ça va résonner très fort, effectivement, dans la vie de ce couple, hein, joué par Jérémy Régnier et Bérénice Bejo.
C'est ça. Ça résonne parce que la présence d'un intrus, nauséabond, disons, d'un intrus qui colporte ce type de discours, réveille en fait des fantômes, réveille des angoisses, alors qu'ils essayent tout simplement de casser la vente et de faire en sorte que le type n'y reste plus. Donc ça, c'est un peu la ligne dramatique. Disons, suit un peu la trame d'un thriller, disons, avec le fameux intrus qui vient et qui sème par sa présence le trouble.
Et cet intrus joué par François Cluzet, qui est absolument brillant.
Il est extraordinaire, c'est un acteur avec qui j'avais déjà la chance de travailler. J'avais fait un film qui s'appelait Normandie nue, où il était un maire de village, d'un village normand, très sympathique, très très généreux, empathique. Et là, pour moi, ça a été vraiment un bonheur de lui proposer un rôle très différent et de voir avec quel talent il s'en est emparé, avec quelle conscience. Et avec François, on se voit pendant pendant une semaine, on est là dans sa cuisine, on relit les pages de scénario, et il pose des questions, et on parle, voilà, à bâton rompu de l'histoire, des personnages, et je lui ai dit sur cette scène, il me dit, mais alors comment je joue? Je lui ai dit, mais c'est toi la victime. En fait, tu es le pervers, tu es celui qui déforme la vérité, tu es celui qui dit, il n'y a pas de preuve alors qu'il y en a, mais c'est toi la victime, tu te vis comme une victime. Et du coup, ça lui donne une position assez unique, quoi.
Même nous, en tant que spectateurs, on ne sait plus trop de quel bord se placer, limite. Hein. À l'instar, un peu, justement, de la jeune adolescente de la famille, la fille de Jérémy Régnier et Bérénice Bejo, qui, à un moment donné, prend même la défense de cet homme, malgré ses propos.
L'ado, c'est une ado de 16 ans, une jeune fille un peu en colère. Elle a des bagues qu'on doit lui enlever, on n'arrête pas de pas les lui enlever. Elle est un peu en révolte avec ses parents, comme peu, voilà, c'est. Mais en même temps, elle est pas du tout. Elle sait très bien ce que c'est qu'un négationniste. Elle sait très bien. Elle est très structurée. Elle a une sorte d'énergie, même de violence. Elle lui dit t'es un connard. Enfin, voilà, elle lui rentre dedans. Et l'autre se laisse pas faire. Elle lui dit mais quoi? Pourquoi tu dis ça? Mais moi je cherche la vérité. Pourquoi tu
restes très stoïque face à elle?
Reste stoïque. Il essaie d'engager un dialogue. Et évidemment, sa vulnérabilité à elle fait que dès l'instant où elle répond, même si elle répond en disant t'es un pauvre mec, t'es une ordure, elle va peu à peu se laisser envahir par ses paroles.
Et c'est là que ça va clasher sévère. Par la suite, vous allez voir en allant voir le film, parce que c'est ça qui est encore mieux. L'idée de départ, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce film,
J'ai commencé, Philippe ? Il y a très longtemps, j'ai commencé en fait en 2009. Pendant un an et demi, j'ai écrit avec Gilles Torrent l'histoire, et puis j'ai arrêté. J'arrivais pas à trouver les solutions. Et j'ai repris l'histoire là, il y a un an et demi. Sans doute, je m'étais un peu débarrassé de ma. Peut-être que la forme du thriller m'a aidé à m'emparer de cette histoire, le fait de créer un suspense, à ne pas faire un film dossier, quoi. Voilà, à faire un film qui soit palpitant. Et finalement, voilà, non, je suis content d'avoir attendu. Et malheureusement, je me rends compte que l'époque dans laquelle on vit, ça donne une tribune parfois à ce type de discours. C'est ça qui est assez inquiétant.
Oui, c'est ça qui est inquiétant. On va en parler dans un instant encore avec Sharif Andoura également, qui va nous rejoindre. Le film sort mercredi dans les salles. Ça s'appelle L'homme de la cave. C'est votre nouveau film, Philippe, qu'il ne faut pas rater au cinéma. Est-ce que vous avez des projets pour terminer pour la suite? Souvent quand le film appartient au public là dans deux jours, eh ben souvent déjà le réalisateur pense déjà à la suite, ou la suite est déjà en cours d'écriture. Vous, est-ce que c'est le cas?
C'est un petit peu flou. Disons que je voudrais traiter de l'histoire d'un dentiste qui a mal aux dents. C'est ça mon pitch. C'est un film sur la douleur, sur l'anesthésie, mais ce serait dans une veine peut-être plus légère.
Bon, à découvrir 2023 peut-être. Voilà, en tout cas, merci Philippe d'avoir été avec nous. Et tout de suite, voici la bande-annonce de L'homme de la cave qui sort mercredi en salle. On écoute.
Pourquoi vous la vendez? C'est toujours utile, une cave. On avait dit 9000, hein. Je vous règle tout en une fois.
Vous savez, monsieur, qui a acheté la cave? Eh bien, cette nuit, il a dormi en bas.
Tous les jours, il vient dans les toilettes, moi, je lui dis rien. Et d'un coup, il hurle, il me traite de sale bougnoule.
Maître, j'annule la vente de cette cave.
Vous allez nous rendre les clés?
Ah, non, la cave, elle est à moi. Vous avez encaissé le chèque. Je rentre chez moi, puis vous n'y pouvez rien.
Ce type est un négationniste qui nie les camps de la mort nazie.
Tu m'as jamais dit qu'on habitait l'appartement de ton oncle déporté?
Allez, on parle du film L'homme de la cave. C'est notre coup de cœur ciné cette semaine. Ça sort mercredi au cinéma, le nouveau film de Philippe Leguet avec Sharif Andoura, qui est justement notre invité. Bonjour Sharif.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. L'homme de la cave, vous jouez l'avocat qui va essayer de dépatouiller un peu cette histoire dans laquelle s'est embourbé Jérémy Régnier en accueillant un négationniste dans sa cave, qui lui a acheté sa cave, mais comment s'en défaire? Voilà un peu le pitch de cette histoire de Philippe Leguet et l'histoire d'un avocat très rentre-dedans, très sûr de lui, hein, Sharif.
Oui, très sûr de lui parce que ami d'enfance de Jérémy Régnier, avocat très reconnu à la City à Londres, plutôt avocat d'affaires, et qui je pense prend cette affaire au départ un peu pas par légèreté, mais dans une espèce de certitude que c'est une affaire gagnante, que tout va bien se passer. Et puis, au fur et à mesure du scénario, on va comprendre que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il est question aussi de pulsions. Et que les pulsions, c'est toujours compliqué chez les humains.
Alors, c'est un peu un homme à femme avec des conquêtes. D'ailleurs, première scène, hein, il arrive avec une sculpturale blonde à ses côtés. Et donc, revoit son ami qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs années. Alors, à base, il hésite. Il ne lui dit pas, évidemment, qu'il a besoin de lui pour cette histoire. Mais ça vient, effectivement, au fur et à mesure. Quand vous avez lu le scénario, Sharif, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ce que moi j'ai trouvé très intéressant, on apprend plus des choses dans le film de Philippe là.
Ben, je trouve quand Philippe m'a parlé du film, je me suis dit qu'en cette période, c'est un film nécessaire. Parce qu'on est dans une période où au niveau de l'Europe, on voit très bien qu'il y a quand même une montée des extrêmes, que le passé, moi par exemple, j'ai mon grand-père qui a fait la guerre, ma grand-mère, tous ces gens-là n'existent plus. Donc plus les témoins s'éloignent et plus cette histoire-là s'éloigne aussi, on sait que c'est des zones de tension, la Deuxième Guerre mondiale, etc., chez les jeunes notamment, et que le révisionnisme prend de plus en plus de place, notamment aussi via Internet, les réseaux sociaux, les complotistes, etc. Donc j'ai trouvé ça assez courageux de la part de Philippe de faire ce film. Et puis de le faire comme il l'a fait, c'est-à-dire comme un vrai film noir français, comme on pouvait en voir dans les années 60. Je trouve qu'il y a une couleur de film noir, avec Cluzet qui est génial, Jérémy Régnier qui est super aussi, Bérénice Bejo, Jonathan Zaka. Enfin, il y a une atmosphère de film noir et je pense que le film n'est pas didactique, qu'il est complexe et en même temps il peut se regarder comme un polar aussi, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant.
Quand vous avez vu le film monter la première fois, vous êtes dit quoi? Parce que vous n'avez pas partagé de scène, je crois, avec François Cluzet, hein, si je non, m'abuse. Non,
moi, je ne tournais qu'avec...
avec Jonathan Jérémy. Et Jérémy, oui.
Oui, avec Jérémy. Ben, il a réussi à ne pas faire, je trouve, un film manichéen où il y aurait les gentils, le méchant, révisionniste. C'est-à-dire, on voit les leviers qu'utilisent les révisionnistes, les complotistes, pour obtenir de l'assentiment à leur théorie, c'est-à-dire la victimisation, la pitié, la sympathie. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet quand même de voir, et puis en tant que spectateur, de se positionner par rapport à ça. Parce qu'à certains moments, on peut ne pas être... Évidemment qu'on n'est pas en adhésion à partir du moment où on sait qu'il est révisionniste. Mais au début, on se dit « Ah, ce pauvre homme, ce pauvre type, etc. Et » qui est un peu le trajet du personnage de Jérémy Régnier.
C'est le talent, hein, quand même, aussi, vraiment de François Cluzet. Hein. On s'apitoie presque sur cet homme. On a presque de la peine pour lui, finalement. Et pourtant, il se montrera à certains moments, vous le verrez, odieux dans le film.
Oui, oui, je vais pas... spoiler les scènes de la fin, mais non, mais parce que je pense que c'est une technique. Alors, après, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'on ne sait jamais s'il est de bonne foi ou de mauvaise foi dans ses arguments.
C'est ça qui est dingue.
Voilà. Ouais. Et ça, c'est le talent de François, qui est un grand acteur. Et je trouve que ça amène aussi un regard de spectateur qui est un peu le regard d'un juré de tribunal. C'est-à-dire, vous regardez ça et vous vous dites, mais est-ce qu'il est de bonne foi quand il dit ça? Est-ce qu'il est de mauvaise foi? Est-ce qu'il manipule tout le monde? Est-ce qu'il est sincère? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve que c'est assez passionnant et ça donne une dimension supplémentaire au film.
Alors, deuxième film, parce que là, il y a une actualité quand même chargée aussi. Ça sera en janvier, Les Jeunes Amants de Karine Tardieu, où joue le meilleur ami de Belleville Popo.
Voilà, c'est un film très très beau qui, à la base, était un scénario de Solveig Anspach qui est décédé. Et puis, son producteur, enfin, Solveig voulait qu'une réalisatrice réalise quand même ce film. Patrick Sobelman, le producteur, a fait appel à Karine Tardieu. Et puis, c'est un film avec Fanny Ardant, Melville Poupeau, Cécile de France, Florence Loiricaille. C'est sur une histoire d'amour entre une dame qui a son âge, qui est jouée par Fanny Ardant, et une histoire d'amour avec quelqu'un de plus jeune qui est joué par Melville Poupeau. Et je trouve que c'est assez rare, les histoires d'amour dans ce sens-là, avec une femme beaucoup plus âgée qu'un homme. Et qui en même temps est une histoire d'amour assez pure. Je ne sais pas si l'amour est pur, mais désintéressé. Il n'y a pas des problématiques d'intérêt d'argent. C'est une vraie histoire de passion. Et moi, je joue le meilleur ami de Melville, où le personnage qui est joué par Fanny Ardant était un peu comme une deuxième mère pour lui. Donc c'est par son entremise que les deux se rencontrent, et puis lui est un peu désemparé par cette histoire parce qu'il ne comprend pas pourquoi son meilleur ami vit une histoire d'amour avec quelqu'un qui est un peu la meilleure amie de sa mère. Et je trouve que le film bouscule, il est très sensible, et je pense que sa plus grande qualité, c'est qu'il est très pudique.
Il bouscule et met tout en douceur.
Voilà.
Ouais, c'est ce que j'ai ressenti en voyant le film aussi. Vraiment un film très très doux. Et ça, c'est le talent aussi de la mise en scène de Karine Tardieu, qu'on recevra d'ailleurs en janvier pour la sortie de ce film.
Oui, parce que Karine, elle est très pudique elle-même d'ailleurs dans ses rapports humains. Et je trouve que cette pudeur fait que le film n'est pas démonstratif ou sentimental, mais que l'émotion, elle est toujours un peu retenue. Donc moi, en tant que spectateur, elle m'est plus accessible parce qu'elle est retenue.
Bon, en tout cas, L'Homme de la Cave, ça c'est mercredi, c'est au cinéma, c'est le nouveau film de Philippe Leguet qu'il vous faut aller voir. Sharif, merci d'avoir été avec nous pour en parler.
Merci beaucoup, merci à vous.
Et puis à bientôt.
À bientôt.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, au menu on parlera musique, on parlera évidemment cinéma, on parlera aussi plateforme avec l'équipe de Mixte. Et puis on parlera séries quotidiennes aussi avec de nouveaux acteurs de vos séries préférées qui viendront nous rejoindre. Beaucoup de surprises en tout cas. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Vue d'ici, volets battants, coulissants ou persiennes innovants, fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.